Les explosions sont en même temps des compressions du temps. Les changements observables dans l'univers naturel sont tous explosifs à un certain degré et d'un certain point de vue. Autrement, ils ne seraient pas perceptibles. Les changements souples et progressifs, s'ils sont suffisamment étalés dans le temps, passent inaperçus aux yeux des observateurs dont la perspective est trop courte. C'est pourquoi, en vérité, je vous dis que j'ai observé des changements que vous n'auriez jamais remarqués. Leto 2. Assise à son bureau de la planète du chapitre, la révérende mère supérieure Alma Mavis Taratsa contemplait dans la lumière du matin la silhouette souple et élancée de celle qui se tenait devant elle. La longue robe à bas d'un noir chatoyant, qui la drapait des épaules jusqu'au sol, ne dissimulait pas totalement la grâce avec laquelle son corps exprimait le moindre de ses mouvements. Taratsa se pencha en avant dans son canisiège pour lire les glyphes abrégés, particuliers au Bene Gesserit, que son relais des archives projetait pour ses seuls yeux dans la partie supérieure de son bureau. Darvi Odrad, disait l'affiche, qui énumérait les points essentiels d'une biographie que Taratsa connaissait déjà en détail. Mais ce rappel avait plusieurs utilités. Outre qu'il fournissait un appui sûr à la mémoire de la mère supérieure, il pouvait éventuellement prolonger le temps de réflexion dont elle disposait pendant qu'elle faisait mine de consulter le dossier, ou encore servir d'argument final au cas où l'entretien tournerait de manière négative. Odrad avait donné le jour pour le Bene Gesserit à 19 enfants, observa Taratsa, tandis que les informations continuaient à se dérouler devant ses yeux. Chaque enfant avait eu un père différent. Rien d'inhabituel à cela, mais même le regard le plus critique n'aurait pu discerner en quoi ces états de service, essentiels pour l'ordre, avaient altéré la silhouette d'Odrad. Les traits de son visage, qui conféraient un naturel altier à son nez long et à ses pommettes anguleuses, convergeait vers un menton étroit. Sa bouche, cependant, était charnue et pleine de promesses d'une sensualité qu'elle prenait grand soin de brider. « On peut toujours faire confiance au gène des Atréides », se dit Taratsa. Le rideau d'une fenêtre se mit à battre derrière Odrad et elle se retourna. La petite pièce où Taratsa travaillait chaque matin était d'une élégance sobre à dominante verte. Seul le canisiège où la mère supérieure était assise tranchait sur le décor par son blanc éclatant. Deux fenêtres en saillie donnaient à l'est sur une vaste pelouse, avec à l'arrière-plan les montagnes couronnées de neige de la planète du chapitre. Sans lever les yeux, Taratsa déclara « Je suis heureuse que Lucille et vous ayez accepté cette mission. Cela me facilite énormément les choses. »
« J'aurais aimé faire sa connaissance. »
Les yeux d'Odrad étaient fixés sur le haut de la tête de Taratsa. Sa voix avait une douceur de contralto. Taratsa s'éclaircit la voix pour répondre.
« C'est inutile. Lucille est l'une de nos meilleures imprégnatrices. Bien entendu, vous avez toutes les deux fait l'objet du même conditionnement libéral pour accomplir votre tâche. »
Il y avait quelque chose de presque insultant dans l'intonation désinvolte de Taratsa. Et seule l'habitude d'une fréquentation de longue date lui permit de faire abstraction de son ressentiment immédiat. Elle se rendait compte que celui-ci provenait en partie de l'utilisation par Taratsa du mot « libéral ». Ses ancêtres atréides se hérissaient à cette mention. C'était comme si les souvenirs de toutes ses aïeules s'unissaient pour flétrir des préjugés inconscients et des sous-entendus douteux. Seuls les libéraux savent penser. Seuls les libéraux sont de vrais intellectuels. Seuls les libéraux comprennent les besoins de leurs semblables. Que de malveillance pouvait se cacher derrière ce mot, se disait Odrad. Que de faux amours-propres clamant leur désir de se sentir supérieur. Odrad se força cependant à se rappeler que Taratsa, malgré son ton de désinvolture insultante, n'avait utilisé le terme que dans un sens général. Elle voulait dire que l'éducation globale de Lucille avait été soigneusement aligné sur la sienne. Taratsa, sans quitter des yeux le dessus de son bureau, se pencha en arrière pour adopter une position plus confortable. La lumière du jour, filtrant par les rideaux des fenêtres, tombait directement sur sa figure, laissant des ombres entre le menton et le nez. À peine plus âgée qu'Odrad, mais bien plus petite de taille, Taratsa conservait une grande partie de la beauté qui avait fait d'elle une reproductrice fructueuse, même avec des mâles difficiles.
Son visage formait un long ovale aux joues douces et pleines.
Ses cheveux noirs, ramassés en arrière, dégageaient un front haut à l'arête saillante.
Quand Aratza parlait, sa bouche s'ouvrait à peine.
Ses mouvements étaient superbement contrôlés. L'attention de ses interlocuteurs était invinciblement attirée par le bleu sur bleu de ses yeux. L'effet global était celui d'un masque suave qui ne laissait filtrer qu'un minimum d'émotions authentiques.
Odrad identifia la pose adoptée par la mère supérieure.
Taratza allait bientôt se mettre à murmurer entre ses dents. Effectivement, au même instant, Taratza remua les lèvres pour grommeler quelque chose.
Tout en suivant avec attention la biographie d'Odrad, la mère supérieure avait mille choses dans la tête.
C'était une pensée plutôt rassurante pour Odrad. Taratza ne croyait pas à l'existence d'un être bienveillant penché sur le sort de l'humanité. La seule chose qui comptait dans son univers était la Missionaria Protectiva et la politique du Bene Gesserit. Tout ce qui pouvait être utile à cette politique, y compris les machinations d'un tyran depuis longtemps disparu, devait être considéré comme bon. Le reste était mauvais. Les intrusions étrangères provenant de la Grande Dispersion, et particulièrement ces femmes qui se donnaient le nom d'honorées matriarches, ne pouvaient être que suspectes. Les partisanes de Taratza, et même les révérendes mères qui s'opposaient à elle au conseil, représentaient la dernière ressource du Bene Gesserit, les seules forces sur qui l'on put compter.
Toujours sans lever les yeux, Taratza demanda « Savez-vous que si l'on compare les millénaires qui ont précédé le tyran à ceux qui ont suivi sa mort, la diminution des conflits majeurs est quelque chose de phénoménal ? Depuis l'époque du tyran, ces conflits représentent moins de 2% de leur nombre antérieur. »
Pour autant que nous le sachions, fit Odrad.
L'œil vif de Taratza se leva sur elle une fraction de seconde, puis se fixa de nouveau sur le bureau.
Plaît-il ?
Nous n'avons aucun moyen de connaître le nombre de guerres qui ont été livrées en dehors de chez nous. Avez-vous des statistiques sur les peuples de la Grande Dispersion ?
Bien sûr que non.
L'étau nous a apprivoisés. C'est ce que vous avez voulu dire.
Si vous préférez le formuler de cette façon, dit Taratza en insérant une marque sur quelque chose qu'elle était en train de lire.
Est-ce qu'une partie du crédit ne devrait pas être attribuée à notre vaillant bachar Miles Tegg ou à ses talentueux prédécesseurs?
C'est nous qui les avons choisis.
Je ne saisis pas l'utilité de cette discussion martiale, fit Odrad. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec nos problèmes actuels?
Certains pensent que nous pourrions régresser d'un seul coup, dans un horrible fracas, jusqu'à la situation qui existait avant le tyran.
Hein?
Fit Odrad avec une moue de surprise. Plusieurs groupes d'égarés sont en ce moment en train de proposer des armes à qui veut ou peut les acheter.
Des spécifiques?
Gameux est envahi par toutes sortes d'engins de combat individuels, et il ne fait aucun doute que le Tleilax fait provision d'armements interdits.
Taratza se laissa aller en arrière en se frottant les tempes. Elle reprit d'une voix faible, comme si elle méditait uniquement pour elle-même.
Nous croyons prendre des décisions de la plus haute importance, dictées par les plus grands principes.
Odrad l'avait déjà vue ainsi également. Elle demanda sans s'émouvoir,
notre mère supérieure douterait-elle du bien fondé de l'ordre?
Douter? Oh non! Mais j'avoue que la chose est un peu frustrante. Nous œuvrons toute une vie pour atteindre ces objectifs raffinés et que constatons-nous à la fin? Qu'un bon nombre de choses auxquelles nous avons dédié notre existence résultent de décisions mesquines, prises pour assurer notre confort ou notre satisfaction personnelle, sans commune mesure avec nos idéaux élevés. Ce qui est recherché chaque fois, c'est une espèce de compromis matériel propre à combler les exigences de ceux qui ont réellement le pouvoir de prendre les décisions.
En d'autres occasions, vous appeliez cela les nécessités de la politique,
fit Odrad. Taratza parla d'une voix étroitement contrôlée, tout en reportant son attention sur le dossier qu'elle lisait.
Si nous laissons nos jugements s'institutionnaliser, c'est à coup sûr la fin du Bene Gesserit.
Vous ne trouverez pas de décision mesquine dans ma bio.
Ce sont des failles que je recherche, des sources de faiblesse.
Vous n'en trouverez pas non plus.
Taratza réprima un sourire.
Elle reconnaissait bien cette remarque égocentrique. C'était une façon d'aiguillonner la mère supérieure. Audrade était très forte pour se donner un air impatient, tout en se retirant au contraire dans un cocon d'attente infatigable. Voyant que Tarazza ne mordait pas à l'hameçon, Audrade reprit son attitude d'expectation tranquille. Respirer régulièrement, faire le calme dans son esprit. La patience venait sans y penser. Depuis longtemps, le Bene Gesserit lui avait enseigné à canaliser le passé et le présent en flots simultanés. Tout en observant son environnement immédiat, elle avait la faculté de réunir des fragments de son passé pour les revivre, comme en surimpression sur l'écran du présent. Simple gymnastique de la mémoire, se disait Audrade. Certaines choses gagnaient à être remontées à la surface. Les barrières étaient enlevées, et quand tout le reste faisait défaut, il y avait toujours son enfance brumeuse. À une époque, Audrade avait vécu comme la majorité des enfants, dans une maison avec un homme et une femme qui, s'ils n'étaient pas ses vrais parents, en tenaient certainement lieu. Tous les enfants qu'elle connaissait alors vivaient dans des conditions analogues. Ils avaient un papa et une maman. Quelquefois, seul le papa travaillait à l'extérieur. Dans d'autres cas, c'était la maman. Pour Audrade, il n'y avait pas de problème. C'était la femme qui restait à la maison et elle n'avait pas besoin d'une aide spéciale pour garder l'enfant pendant les heures de travail. Beaucoup plus tard, Audrade avait appris que sa mère naturelle avait déboursé une forte somme d'argent pour qu'il en soit ainsi et que la fille soit cachée dans cette famille à la vue de tout le monde. « Elle t'a placé chez nous parce qu'elle t'aimait », avait expliqué la femme quand Audrade avait eu l'âge de comprendre. « C'est pour cette raison que tu ne dois jamais révéler à personne que nous ne sommes pas tes vrais parents. » L'amour n'avait cependant rien à voir avec la question, comme Audrade l'avait compris plus tard. Les révérendes mères ne se laissaient pas dicter leurs actions par des motifs aussi terre-à-terre. Et la mère naturelle d'Audrade était une Bene Gesserit. Tout cela avait été révélé à Audrade conformément aux prévisions originales. Son nom était resté Audrade. Darvi était celui qu'on lui avait toujours donné quand on ne voulait être ni familier ni sévère avec elle. Et ses amis du même âge avaient pris l'habitude de l'abréger en Dar. Tout ne se passait pas néanmoins conformément aux prévisions originales. Audrade se souvenait d'un lit étroit au milieu d'une chambre au mur bleu pastel, égayé par des dessins d'animaux et de paysages imaginaires. Il y avait des rideaux blancs aux fenêtres et la brise d'été ou de printemps les agitait parfois. Audrade aimait sauter sur le lit comme une folle. C'était un jeu merveilleux qui provoquait des rires sans fin. Parfois, en plein rebond, des bras la saisissaient et la serraient très fort. Des bras d'homme. Un visage tout rond avec une petite moustache qui la chatouillait et lui donnait le fou rire. Le lit cognait le mur quand elle sautait dessus. Il y avait plein de marques à cause de ça. Audrade s'attardait sur ce souvenir, répugnante à le laisser se noyer dans le puits de sa rationalité. Des marques sur un mur. Des éclats de rire joyeux. Comme c'était peu pour représenter tant. Étrange, comme elle pensait de plus en plus à papa ces temps-ci. Tous ses souvenirs n'étaient d'ailleurs pas agréables. Il y avait eu des moments de tristesse ou de colère, des moments où il mettait maman en garde contre les dangers de trop se donner. Son visage reflétait alors de multiples frustrations. Sa voix était rauque comme quand il se mettait en colère. Maman se faisait toute petite, le regard plein d'inquiétude. Audrade sentait ses angoisses et ses préoccupations, et elle en rendait papa responsable. Mais c'était maman qui savait toujours ce qu'il fallait faire pour arranger les choses. Elle embrassait papa dans le cou, elle lui caressait la joue et murmurait de gentilles choses à ses oreilles. Toutes ces vieilles émotions naturelles avaient donné un certain mal à la maîtresse analyste du Bene Gesserit quand il avait fallu les exorciser. Encore maintenant, il y avait des restes qu'on aurait pu extirper. Voyant l'attention avec laquelle Tarazza épluchait son dossier, Audrade se demanda si la mère supérieure avait découvert la faille dont elle parlait. Elles doivent savoir que je suis capable de régler toute seule ces émotions des temps passés. Il y avait si longtemps. Et cependant, Audrade devait admettre que le souvenir de cet homme et de cette femme était si profondément incrusté en elle
que rien ne saurait l'effacer complètement, particulièrement le souvenir de maman.